Qu'est-ce donc une réunion d'assemblée dont nous avons lu la mention à deux reprises dans ce 14e chapitre de cette première épître aux Corinthiens? L'assemblée réunie ensemble, c'est donc le rassemblement de croyants autour de la personne du Seigneur, seul centre d'attrait, à l'écoute de sa parole qui a toute autorité sur leur conscience et sur leur cœur, jouissant en commun d'un même partage et désirant la libre action de son esprit, appliquant cette parole pour l'édification, principalement s'il s'agit de la réunion d'édification. Les réunions d'assemblée sont donc au nombre de trois, nous le savons bien, elles constituent un cycle complet. Réunion de prière, pendant laquelle l'Assemblée exprime des besoins accompagnés d'actions de grâce. Réunion dans laquelle donc on demande. Réunion d'édification où l'Assemblée est nourrie par le ministère des Écritures. Réunion pendant laquelle l'Assemblée reçoit. Et la troisième, non pas citée dans l'ordre d'importance, mais dans l'ordre de ce cycle complet, la réunion de culte au cours de laquelle l'Assemblée réunie comme telle présente la louange, l'adoration au Seigneur, cette louange collective adressée à Dieu et au Seigneur en raison de ce qu'est la personne divine et de ce qu'il a fait. Réunion pendant laquelle les rachetés rassemblés offrent. Demander, recevoir, offrir constitue donc le cycle complet des réunions d'assemblée. Et nous réalisons que s'il y a une lacune dans la vie d'assemblée réalisée personnellement, il y aura des conséquences spirituelles dans nos vies individuelles. Si nous ne demandons pas, négligeant la réunion de prière, nous recevrons peu. Nous l'avons lu dans ce chapitre 18 de Matthieu. Si nous recevons peu, nous aurons nécessairement peu à offrir. Ces réunions d'assemblée, nous en l'avons en germe, bien qu'elles n'aient pas été révélées, mais nous l'avons en germe dans cette présentation du Seigneur ressuscité au milieu des saints, des siens, les disciples rassemblés, après sa résurrection, auquel il vient rendre visite comme premier-né de la famille du Père. Présence qu'il est rempli de joie. Quelle est la joie que nous expérimentons, que nous éprouvons lorsque nous sommes conviés à ces saintes convocations? Le psalmiste pouvait dire « Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Que le Seigneur nous donne d'éprouver un tel besoin et d'expérimenter une semblable joie à la perspective de nous trouver là autour du Seigneur. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel. » L'Assemblée comme telle est revêtue d'une autorité qui n'est pas la sienne, mais celle du Seigneur. Et comme l'a écrit l'un de nos devanciers, elle est la plus haute juridiction qui existe dans ce monde, puisqu'elle agit avec l'autorité du Seigneur. Non pas l'autorité de l'Assemblée, mais l'autorité du Seigneur. Pour cela, bien sûr, il faut qu'elle soit consciente de la seigneurie de Christ et de ses droits dans sa maison. Il en est le maître, il en est le Seigneur. Et l'Assemblée, au cours de réunions d'Assemblée, a donc la possibilité de lier ou de délier. C'est ce que nous avons lu dans ce 18e chapitre de Matthieu. Tout ce que vous lirez sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sera délié dans le ciel. Ainsi donc, une décision prise par l'Assemblée est ratifiée dans le ciel. Et ceci met un accent tout particulier sur la solennité d'une décision d'assemblée et l'exercice qui s'y rattache. Nous pensons tout particulièrement, sous l'aspect de la décision, à l'admission à la table du Seigneur et à la rupture de communion à cette même table. L'assemblée décide. Elle lie, elle délie au nom du Seigneur. Tout ce qu'elle fait, l'assemblée, elle le fait au nom du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, elle décide au nom du Seigneur. Et la conscience d'une telle réalité, à savoir qu'une décision d'assemblée est enregistrée dans le ciel, revêt de telles décisions d'une solennité particulière et doit conduire l'assemblée à un exercice de conscience, de cœur, traduit par la prière, afin de rechercher dans la crainte et un saint tremblement la pensée de Christ, afin de pouvoir agir et de pouvoir lier ou délier en son nom en bonne conscience. La question s'est souvent posée, est souvent posée, pourquoi donc demander sa place à la table du Seigneur? Combien de jeunes l'ont demandé? Avec raison, pourquoi demander sa place à la table du Seigneur? Question qui réclame une réponse. Et nous l'avons précisément dans la réalité de la solennité d'une telle décision que l'Assemblée prend au nom du Seigneur, dans la conscience que la gloire du Seigneur et son nom sont engagés dans sa propre maison. Et les frères et l'Assemblée sont en devoir d'être exercés devant le Seigneur pour rechercher sa pensée et discerner si l'Assemblée peut en bonne conscience lier en son nom à la gloire de celui qui est maître et seigneur de son Assemblée, qui bien sûr engage toutes les assemblées. Une assemblée prenant une décision, cette décision engage toutes les assemblées qui sont appelées à reconnaître une telle décision, étant donné que toutes les assemblées ne sont que des expressions locales d'une même assemblée et que toutes les tables dressées dans ces différentes assemblées ne sont que l'expression d'une même table, d'une seule table. Il n'y a qu'une table du Seigneur, qu'un seul pain, qu'un seul Seigneur, qu'une seule scène du Seigneur, comme il y avait dans la pensée de Dieu en Israël, au jour de sa délivrance, un seul agneau, bien que pratiquement il y eut beaucoup d'agneaux, comme par la grâce de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup d'expressions locales de cette assemblée avec l'expression d'une table du Seigneur, c'est la même assemblée, le même Seigneur, la même table du Seigneur. Et en vertu de cette unité qui réunit tous ces rachetés, toutes ces assemblées en un seul corps, et sur le fondement de la réalité de cette vérité cardinale de l'unité du corps de Christ, une décision d'assemblée est reconnue par toutes les assemblées en communion les unes avec les autres. Une réunion d'assemblée est donc revêtue d'une solennité particulière, et nous devons y penser lorsque l'Assemblée passe par des exercices. Nous pouvons peut-être penser que ce sont des exercices ressentis plus particulièrement par un ou par quelques frères, mais tel n'est pas le cas. C'est l'Assemblée, tout ce que vous lirez. Soulignons bien ces passages de Matthieu 18, quand l'Assemblée lit, ce ne sont pas les frères seulement, mais l'Assemblée. L'Assemblée est placée devant un exercice, par exemple la demande de participation à la table du Seigneur, les frères s'enquièrent pour savoir s'ils sont libres pour placer un tel exercice devant sur le cœur de l'Assemblée, et l'Assemblée comme telle, étant alors à l'aise pour procéder à cette action de lier, prononce au nom du Seigneur cette communion réalisée avec un nouvel enfant de Dieu. C'est une décision d'assemblée, frères et sœurs réunis, et cela donne une solennité toute particulière à une décision d'assemblée. Il en est de même de la rupture de communion, Quelle solennité lorsqu'une assemblée est appelée au sein de la souffrance et de l'humiliation profonde à prononcer une telle décision. Réunion d'assemblée, il y a donc aussi d'autres réunions, d'autres rencontres qui ne sont pas des réunions d'assemblée. Nous connaissons plusieurs caractères de rassemblement qui ne revêtent pas alors le titre de réunion d'assemblée, comme par exemple des réunions d'enseignement à la responsabilité d'un frère ne sont pas des réunions d'assemblée. Des réunions à l'occasion de circonstances telles que des ensevelissements ou des mariages ne sont pas des réunions d'assemblée. Des réunions d'évangélisation, à savoir pour la proclamation de l'Évangile par un serviteur de Dieu qui a reçu de la part du Seigneur ce don-là, ne sont pas des réunions d'assemblée, puisque l'assemblée a été mise au bénéfice de l'Évangile, constituée par des rachetés, des enfants de Dieu, et la nourriture pour l'assemblée n'est pas la prédication du salut. L'évangéliste, travaillant dans le monde à l'intention des personnes inconverties, alors que les dons placés dans l'assemblée, comme nous le verrons en 1 Corinthiens 14, sont des dons qui conduisent à l'édification, à l'affermissement, à la nourriture des âmes. Il est peut-être utile de mettre l'accent sur trois points en rapport avec le serviteur du Seigneur, en rapport avec l'exercice dans le ministère et en rapport avec l'exercice des charges locales. Le serviteur de Dieu qui a reçu un don public, dont les caractères nous sont décrits en 1 Corinthiens 14 principalement, à savoir le pasteur, le docteur et le prophète, et le don combien précieux, celui d'évangéliste, qui travaille dans le monde ou à l'intention des personnes inconverties, ce qui ne saurait dire en aucun cas qu'un appel est déplacé au cours d'une réunion d'assemblée. Mais autre chose est l'exercice du ministère de l'évangéliste qui s'adresse aux âmes inconverties. Le serviteur est appelé par le Seigneur. Il est formé par le Seigneur. Il est envoyé par le Seigneur. C'est un sujet du plus haut intérêt que de considérer dans les Écritures les diverses manières selon lesquelles le Seigneur appelle, forme et envoie. Mais le service, l'exercice du ministère s'exerce avec la communion de l'Assemblée. Et combien ceci est important et précieux. La communion de l'Assemblée au départ d'un ministère et principalement de l'assemblée locale. Chacun peut lire en acte 13 la manière selon laquelle Paul et Barnabas sont envoyés. Il ne nous est pas dit que l'assemblée a porté son choix sur Paul et Barnabas. Il nous est dit « L'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service auquel je les ai appelés. » C'est l'appel divin, c'est l'appel du Seigneur. L'Esprit Saint dit. Ce n'est pas l'assemblée. Mais nous voyons que l'assemblée, qui se trouvait en prière et en jeûne, c'est-à-dire en exercice, discernant que ses serviteurs sont appelés pour le Seigneur, les laisse aller en leur témoignant la main d'association ou l'identification, la communion dans leur service, il le dit, ayant prié, et imposer les mains, ils les laissèrent aller. L'assemblée les laisse aller, ils partent avec la communion de l'assemblée, et principalement de l'assemblée locale. Combien cela est important, constitue une bénédiction particulière pour le serviteur de Dieu qui part de cette manière-là. Mais l'appel est du Seigneur, la formation est du Seigneur, il n'y a pas deux formations semblables, et l'envoi, au moment de Dieu, vient du Seigneur. L'Assemblée discerne si tel est le cas pour pouvoir donner sa main d'association et les recommander à la grâce du Seigneur. Ses serviteurs reviendront pour donner des nouvelles et pour jouir de cette communion de l'Assemblée. Lorsqu'il s'agit d'une décision, nous l'avons vu, c'est alors l'Assemblée. L'Assemblée qui décide, qui lie et qui délie au nom du Seigneur. Mais lorsqu'il s'agit des charges, les charges alors sont locales. Et chacun peut voir dans le chapitre 6 du livre des Actes que la scène dans laquelle il y avait des murmures, les hellénistes se plaignaient que leur veuve était délaissée, mais cette scène fournit l'occasion, bien que les murmures ne soient pas justifiés par cela, elle fournit l'occasion d'un enseignement qui nous est fort précieux. Les apôtres peuvent dire, jetez les yeux sur sept hommes qui ont un bon témoignage pour qu'ils remplissent des charges, déchargeant par cela les apôtres qui sont consacrés leur temps à la distribution des biens pour répondre aux besoins matériels des veuves principalement, ils en sont déchargés pour le service de la parole, alors que sept hommes, ses frères, sont revêtus de ce service que l'on appelle le diaconat. Mais dans ce chapitre 6, nous ne voyons pas qu'il soit dit qu'on leur impose les mains et qu'on les laisse aller. Nous pouvons lire le passage pour plus de précision. Au chapitre 6e, au verset 3, « Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons sur cette affaire. Et pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Et il nous est dit au verset 6e, au milieu, « Après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. » Il n'est pas dit qu'ils les laissèrent aller. Pourquoi cela? Parce que l'exercice des charges est local. Il s'exerce avec la communion des frères, mais dans un cadre local. Alors que le ministère de la parole de Dieu n'est pas circonscrit à l'assemblée locale. Il les laisse aller. Mais ici, la communion des frères est exprimée par le fait que les mains leur sont imposées, et ils exercent leur charge dans le cadre de l'assemblée locale. Mais remarquons ici qu'en rapport avec les charges, ce n'est pas la décision de l'assemblée, mais celle des frères. Les frères, jetez les yeux, frères, sur cet homme. Il y a donc des décisions qui sont du ressort des frères, des décisions qui sont du ressort de l'assemblée, et ce qui vient du Seigneur seul, c'est-à-dire, nous le répétons, l'appel, la formation et l'envoi dans le ministère. Et combien cela est utile pour nous conduire dans la vie d'assemblée et nous donner la clairvoyance que le Seigneur seul peut nous donner pour agir selon sa pensée, afin que, comme nous l'avons lu en 1 Corinthiens 14, toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Nous avons évoqué le cycle des réunions d'assemblée qui est au nombre de trois, dont nous avons une expression bien touchante dans trois scènes où nous trouvons Marie de Béthanie au pied du Seigneur. Nous la trouvons une fois au pied du Seigneur, priant au sujet de son frère Lazare, qui était mort. Figure, type bien sûr, de croyant au pied du Seigneur pour la prière. Nous ne voyons pas qu'il y ait de l'opposition. Dans la seconde scène, nous la retrouvons au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Nous y discernons, le récit nous montre dans ce passage, cette portion de l'Écriture si connue, qu'il y a déjà de la mécompréhension, et cela de la part de sa propre sœur. Troisième scène, qui évoque celle où l'on offre l'adoration, cette même femme au pied du Seigneur pour répandre le parfum. Ici, ce n'est pas seulement la mécompréhension, c'est l'opposition ouverte, c'est le mépris à l'égard de ce que l'on offre au Seigneur. À quoi bon cette perte? Pensons un peu à la blessure que de telles paroles ont pu provoquer dans le cœur du Seigneur. Considérez comme perdu ce qui était destiné à l'objet du cœur de cette femme. Au pied du Seigneur pour prier, au pied du Seigneur pour écouter sa parole, à ses pieds pour répandre le parfum de nard pur. Et ces trois scènes démontrent ce qui est sous nos yeux aujourd'hui, à savoir que dans le monde chrétien, on conçoit bien que l'on vienne encore au pied du Seigneur pour faire des requêtes, pour qu'il vienne à notre secours, pour qu'il nous délivre. On considère déjà comme temps perdu celui que l'on passe à l'ouïe de sa parole, sondant les Écritures pour être nous enquérir diligemment de lui comme le fit en son temps le roi David. Mais quant à se trouver à ses pieds pour l'adoration et pour la louange, c'est l'opposition ouverte de la part de l'ennemi. Et il a su, dans le monde christianisé, dans l'Église professante, dans sa majeure partie, enlever dans la pensée de ceux qui portent le titre de chrétien cette notion du culte, ce qui revient au Sauveur, au Libérateur. À quoi bon cette perte? Mais pour le racheté fidèle, pour ceux qui constituent ce témoignage précieux au cœur du Seigneur, cette rencontre pour la louange n'est-elle pas d'un prix particulier? Mais il y a donc trois réunions d'assemblée, et la première, citée dans l'ordre de la requête qui précède la réception de ce que le Seigneur communique, nous avons donc la réunion de prière, de laquelle nous avons lu un passage en Matthieu 18, et nous terminons par l'évocation de cette réunion d'assemblée. La réunion de prière, si deux d'entre vous sont d'accord. L'accord est donc à la base de la prière collective. Il faut être d'accord. Mais n'y a-t-il pas deux pensées qui se rattachent à cet accord? Être d'accord quant à la chose que l'on demande, avoir la même pensée, mais aussi ce commun accord dans le sein de l'Assemblée. Cette même pensée que nous avons écrite dans les passages lus au début du livre des Actes, ils étaient tous d'un commun accord. Une même pensée, celle de l'Esprit, celle du Seigneur, qui nourrit les cœurs et produit des besoins qui résultent et qui émanent d'un même cœur. Commun accord est donc la condition pour la prière collective. Et combien il est précieux, frères et sœurs, de nous trouver là, à l'heure de la prière, en assemblée, lorsqu'il nous est accordé cette faveur, fruit de sa grâce, de réaliser cette même pensée, cette communion pratique, cette unité de l'esprit pour présenter des requêtes avec des actions de grâce. Et quelles promesses sont liées un tel état d'âme, un tel état d'esprit et de cœur dans l'Assemblée, à genoux, pour faire des demandes avec des actions de grâce. Dans la réunion de prière, il n'est pas question de l'exercice des dons. Les dons n'interviennent pas dans la réunion de prière, pas plus que dans le culte. Et remarquons que dans trois réunions d'Assemblée, il n'y en a qu'une seule qui requiert l'exercice des dons. C'est la réunion d'édification. Les deux autres réunions d'assemblée, prière et culte, ne font pas appel aux dons. Ce qui nous montre que la prière est l'action de grâce et l'expression de la louange est le fruit du cœur occupé de Christ et non pas d'une capacité particulière d'un don même notoire. Le cœur qui vit dans la jouissance du Seigneur, dans sa communion, se s'ouvrira pour présenter des requêtes, comme aussi pour présenter l'adoration, la louange. Et la prière en assemblée est généralement et sans doute avec à propos la première activité d'un jeune frère dans l'assemblée. Et quel rafraîchissement lorsque dans la réunion de prière, un jeune cœur attaché au Seigneur s'ouvre dans la liberté de l'esprit et démontre qu'il s'agit d'un vrai exercice devant le Seigneur pour traduire des requêtes qui sont ressenties par l'ensemble des cœurs réunis pour la prière. La prière en assemblée. Prière en assemblée ne requiert pas de longues prières, bien au contraire. N'oublions pas que nous ne serons jamais trop longs dans le privé, jamais trop courts dans l'assemblée, dans la prière. Présenter des requêtes avec des actions de grâce, celles que la parole nous traduit, sont généralement très courtes, mais ont un objet précis et traduisent un état de cœur, de vrais besoins, car si nous regardons à nous-mêmes, que de motifs de faire des requêtes. Si nous regardons au Seigneur, que de raisons d'exprimer des actions de grâce. Bientôt, lorsque nous serons auprès du Seigneur, nous n'aurons plus de besoins à présenter, plus de requêtes à exprimer, mais nos bouches resteront ouvertes pour la louange, pour les actions de grâce. À la réunion de prière se lie également la réunion d'humiliation de l'assemblée qui peut être nécessaire pour des motifs divers lorsque l'assemblée est affligée par le mal qui y pénètre ou par des conditions qui la plongent dans le deuil, moral, spirituel. L'humiliation de l'assemblée qui est indispensable lorsqu'il y a des décisions, notamment qui ont pour objet la rupture de communion, et qui précèdent une telle déclaration solennelle entre toutes, faite par l'Assemblée également au nom du Seigneur. Humiliation qui peut être produite ou requise, soit par un état général de l'Assemblée, soit en raison de cas personnels ou spécifiques. Nous avons dans les chapitres 9 et 10 du livre d'Esdras un enseignement complet et combien utile en rapport avec de telles scènes. Et nous pourrons constater que d'une part il y a l'identification qui est la part de l'âme pieuse et spirituelle et de la part de l'assemblée qui prend sur elle et s'identifie au péché dont est la conscience, et au sujet duquel elle s'afflige en menant deuil. Si nous prenons Daniel, si nous prenons Esdras ou Néhémie, ces hommes de Dieu pouvaient prendre sur eux le péché du peuple et s'identifier à celui-ci en disant « Nous avons péché, nous avons été infidèles ». L'affaire d'Achan est là encore pour nous enseigner à ce propos. Mais lorsqu'il y a la séparation du mal, alors, nous avons un autre langage en Esdras 9. Vous avez été infidèles. Donc, identification dans l'humiliation, dissociation dans la séparation du mal. Nous disons cela en passant, puisque la réunion d'humiliation fait partie, est liée bien sûr à la réunion de prière de l'Assemblée. Bien sûr que les prières en assemblée doivent avant tout avoir pour objet des besoins se rapportant à la vie d'assemblée, à l'assemblée locale. Mais la prière ouvre le champ le plus grand. Priant en tout lieu, mais en assemblée principalement, pour tous les hommes, en tout temps, faisant toutes sortes de prières. Quel vaste champ ouvert à celui de la prière. La prière n'étant pas le moyen d'informer l'assemblée, puisqu'on s'adresse à Dieu et non pas à l'Assemblée, n'étant pas le résumé d'une rencontre ou une présentation d'enseignement, puisqu'encore nous nous adressons au Seigneur. Mais cette prière qui traduit la respiration du cœur de l'Assemblée, qui vibre pour son Seigneur et qui sent ce besoin de confiance, de proximité, de dépendance et de louange. Le Seigneur nous accorde de le réaliser et que la réunion de prière nous soit précieuse, qu'elle soit comptée au nombre de ces saintes convocations, dans cette conscience aussi que c'est là que la force est puisée et que le Seigneur se plaira à répondre en versant sur son assemblée cette pluie de bénédictions. Éprouvez-moi, disait-il en son temps, si je ne vous ouvre les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Qu'il nous accorde d'en faire la bienfaisante et la bienheureuse expérience. C'est que cette assemblée, si précieuse au cœur du Seigneur, pour laquelle il s'est livré lui-même, qu'aujourd'hui encore, dans sa sollicitude et dans sa fidélité, il nourrit et chérit comme au premier jour. Que cette assemblée nous soit précieuse, que nous vivions la vie d'assemblée, car, notons-le, on peut assister aux réunions d'assemblée toute sa vie sans jamais vivre l'assemblée. Qu'il nous donne de la vivre, de porter cette assemblée en prière, en intercession, en exercice, tous les jours sur nos cœurs. L'apôtre Paul est là pour nous rappeler cette sollicitude qu'il avait tous les jours pour toutes les assemblées. C'est un sujet de prière, d'exercice constant, et qu'ainsi, à l'instar du psalmiste, nous puissions porter cette assemblée au-dessus de la première de nos joies. Il portait Jérusalem au-dessus de la première de ses joies. Que ce soit la place qu'occupe dans nos cœurs cette assemblée, qu'elle soit la première de nos affections, dans cette pensée du prix qu'elle a pour celui qui s'est livré pour elle. Et que le désir de nos cœurs soit aussi celui qui était la part de ce même psalmiste qui désirait la prospérité, la bénédiction, l'enrichissement de cette assemblée lorsqu'il disait que la paix soit dans tes murs et la prospérité dans tes palais. Voyons lire quelques passages, premièrement dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4e. Éphésiens, chapitre 4e, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Or, qu'il soit monté, qu'est-ce, sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Verset 15. Qu'étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses, jusqu'à lui, qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps bien ajusté est lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12e, au verset 4. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Il y a diversité de services et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Verset 11e. Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Verset 28e. Et Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord les apôtres, en second lieu des prophètes, et en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce, de guérison, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues. Chapitre 14, les trois premiers versets. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne l'entend, mais en esprit il prononce des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. Jusque-là. Samedi dernier, nous avons été quelque peu occupés de la vie d'assemblée, la diversité des réunions d'assemblée qui constituent, nous nous en souvenons, un cycle complet, comptez au nombre de trois, la rencontre au cours de laquelle, par des prières, on exprime des demandes avec action de grâce, la réunion d'édification pendant laquelle nous sommes mis au bénéfice du ministère de la parole de Dieu, et troisièmement, la réunion de louange, la réunion de culte, où l'adoration s'exprime d'une manière collective. On a également considéré bien brièvement la vie d'assemblée et l'administration de l'assemblée, cette administration qui est confiée aux frères, alors que l'assemblée elle-même est investie d'une autorité qui n'est pas la sienne, mais celle du Seigneur, autorité qui lui permet de décider, notamment de lier ou de délier au nom du Seigneur, décision qui, selon Matthieu 18, est ratifiée ou enregistrée dans le ciel. Décision prise, nous nous souvenons, par l'assemblée, frères et sœurs, réunis comme tels, qui prononce au nom du Seigneur cette solennelle décision selon laquelle elle lie et délie, et tout particulièrement en rapport avec la participation à la table du Seigneur, ou, s'il le faut, une rupture de communion qui est exprimée dans une profonde douleur et avec humiliation. Nous nous souvenons également du ministère dont nous avons évoqué le fait qu'il vient du Seigneur. Le Seigneur est monté en haut, il a fait des dons aux hommes. La source se trouve donc dans le cœur même du Seigneur. Le serviteur étant appelé par le Seigneur, formé par lui-même, envoyé par lui-même et non pas par l'assemblée. Le serviteur a affaire tout premièrement d'une manière personnelle avec le Seigneur, mais exerçant son service en communion avec l'Assemblée, laquelle exerce une bienveillante et fraternelle surveillance comme elle est appelée à le faire, donnant sa main d'association, l'expression de sa communion dans l'exercice du service. Nous nous souvenons également des charges qui ont été rappelées, charges dans l'assemblée locale ou services ou fonctions qui sont confiées à des frères par les frères. Nous référons plus particulièrement au chapitre 6 du livre des Actes où nous avons vu que les apôtres invitent les frères à jeter les yeux sur cet homme pour accomplir un service dans le cadre de l'assemblée locale principalement, service qui requiert, dans ces passages précisément, des qualités spirituelles bien marquées. Il devait avoir un bon témoignage et être rempli de l'Esprit Saint. Ce qui met l'accent également sur le sérieux des charges locales. Un frère peut avoir tout à la fois et une charge locale et un ministère qui outrepasse les limites du rassemblement local, en quel cas il est appelé à avoir la sagesse et le discernement pour exercer l'un et l'autre à sa place et dans sa mesure, mais aussi dans ses limites. Nous nous souvenons des réunions de prière, cette rencontre malheureusement délaissée et pourtant d'une importance fondamentale où l'Assemblée réunie à genoux réalise ses besoins, les exprimant au Seigneur, réalise aussi sa dépendance et sa confiance, dispositions qui sont à la gloire de celui qui veut répandre la rosée de la bénédiction et répondre aux requêtes qui seront prononcées dans la dépendance, la convenance et dans un commun accord. Nous parvenons à la deuxième réunion d'assemblée, à savoir la réunion en vue de l'édification dont nous entretiennent de nombreux passages. Le but donc d'une telle rencontre, c'est l'édification, c'est-à-dire la croissance spirituelle, l'enrichissement, l'affermissement, le développement spirituel des âmes. Le but du ministère doit avoir comme objet d'attacher les cœurs au Seigneur et de les attacher par conséquent à ce qu'il a de plus précieux ici-bas, c'est-à-dire son assemblée. Et la valeur d'un ministère se mesurera sur la base de tels critères. Dans quelle mesure Christ est-il proposé à la méditation des cœurs, aux affections des cœurs, et attacher ces mêmes cœurs à son témoignage, à son assemblée. Car il est, selon la pensée de Dieu et conforme aux nombreux enseignements qu'elle nous donne, qu'il y ait de la croissance, du développement spirituel. Ceci aussi bien sur le plan individuel du croyant que sur le plan de l'assemblée collectivement. Sans doute que des parents seraient fort préoccupés s'ils constataient que leurs enfants ne se développent pas. Ainsi donc, il est fort regrettable lorsqu'il faut constater qu'un racheté du Seigneur ne croit pas, ne se développe pas spirituellement, et qu'il laisse passer les mois et les années à un niveau spirituel constant. Nous sommes appelés à nous développer, tendant vers cette stature d'homme fait dont la parole nous parle. Et le psaume 92 nous présente une image bien éloquente, nous présentant le racheté, le juste croissant comme le palmier et comme le cèdre du Liban. Ce palmier dont le tronc s'élance sans détour vers les sphères élevées où il s'épanouit. Et ce cèdre du Liban qui nous présente ce rayonnement tout autour de lui-même. Il y aura de la bénédiction pour l'entourage. Réunion d'édification qui doit donc avoir et ce but et produire, s'il y a la libre et puissante action du Saint-Esprit, produire un tel résultat. Les dons sont donc des dons de grâce. Et si nous avons lu dans ce 12e chapitre de la première aux Corinthiens qu'il y a diversité de dons de grâce, le terme « don de grâce » souligne le fait que tout est grâce, car toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, et tout ce que l'homme reçoit est une grâce. De telle manière que le racheté, le croyant, le serviteur, mis au bénéfice d'un don, quelle qu'en soit la mesure ou la nature, ne saurait s'en glorifier. Il est un objet de grâce, grâce à laquelle se rattache, bien sûr, la responsabilité et un appel tout particulier à la fidélité, à la vigilance, un don de grâce. Et ces dons sont faits aux hommes. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Dans le psaume 68e, dont la citation nous a été donnée dans cette épître aux Éphésiens, il nous a dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité, il a fait des dons dans l'homme, Christ lui-même. Et le Seigneur dispense ses dons, il a fait des dons aux hommes. Ce qui met donc l'accent sur le fait que les dons ne sont pas faits à l'assemblée, ils sont faits aux croyants. L'assemblée n'a pas de dons, pas plus que l'assemblée n'édifie pas. L'assemblée est mise au bénéfice des dons que le Seigneur donne aux frères ou aux rachetés. Elle est édifiée. L'assemblée n'enseigne pas, elle est enseignée. Mais l'assemblée est mise au bénéfice de l'exercice du ministère dans la diversité de ses caractères. Et l'assemblée est appelée alors à éprouver toute chose, comme le faisaient les Béréens, qui considéraient dans les Écritures, car c'est le seul critère d'appréciation, si les choses qui leur étaient enseignées étaient bien ainsi, conformes à la pensée de Dieu et contribuant à l'édification, à l'enrichissement spirituel. L'assemblée a donc tout à la fois le privilège d'être mise au bénéfice de l'exercice des dons et la responsabilité d'éprouver toute chose. L'assemblée est donc enseignée, enrichie, elle est édifiée. Il y a diversité de dons de grâce qui sont donnés par le même Seigneur et qui sont le produit du même esprit, un seul esprit. Diversité dans l'unité, c'est bien le thème, on peut dire, de ce chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens qui nous traite, qui nous présente, nous développe d'une manière divinement harmonieuse le développement de la vie divine dans cet organisme, et non pas cette organisation, cet organisme qu'est le corps de Christ. Dans le chapitre 12, nous savons bien la doctrine des dons. Dans le chapitre 14, l'exercice de ces dons et le lien entre les deux, c'est l'amour du chapitre 13, au centre duquel nous avons cette déclaration comme le cœur de ces trois chapitres, l'amour qui se réjouit avec la vérité. Quelle harmonie divine! Il y a donc diversité de dons de grâce. Et dans l'épître aux Éphésiens, de laquelle nous avons lu quelques passages, il y a la mention de tous les dons qui sont exercés, des dons publics, au nombre desquels sont nommés en premier les apôtres, et il y a les évangélistes, les docteurs, les pasteurs et d'autres encore. Les évangélistes sont nommés dans cet épître, car il s'agit des dons qui sont faits aux hommes et pour les hommes. L'évangéliste qui a un don d'une valeur particulière, qui est un instrument dans la main du Seigneur pour œuvrer dans la carrière de ce monde et en retirer par la puissance de la grâce des pierres qui deviendront des pierres vivantes qui s'adjoignent à cet édifice qu'est la maison de Dieu, ces ouvriers du Seigneur œuvrant en communion avec l'Assemblée travaillent dans le monde. Nous l'avons, je crois, déjà dit, ceci ne saurait signifier qu'un appel n'est pas à sa place dans une réunion d'assemblée, ce n'est pas le cas, mais la sphère d'activité, bien sûr, de l'évangéliste est à l'intention des inconvertis, alors que le ministère dans l'assemblée est à l'intention des croyants. C'est la raison pour laquelle nous avons pu lire au verset 28e de 1 Corinthiens 12, « Dieu a placé les uns dans l'assemblée. Quels sont-ils ? Les apôtres, dont le ministère a pris fin, nous le savons, et ensuite, les prophètes, les docteurs. Nous n'avons pas la mention des évangélistes comme étant placés dans l'assemblée. Ce sont des dons qui sont à l'intention des non-convertis, nous le comprenons. Mais voilà donc, dans l'assemblée, trois autres dons qui vont s'exercer d'une manière combien profitable s'ils se réalisent dans la dépendance du Seigneur, c'est le pasteur, le docteur et le prophète. Le pasteur qui nourrit, qui paie le troupeau. Le pasteur qui s'adresse aux âmes pour les nourrir de Christ. Il présente Christ au cœur. Et le pasteur, dans la dépendance du Seigneur, aura le message à propos qui est de nature à répondre aux besoins de l'âme. Alors que le docteur qui enseigne et communique la connaissance est un instrument de Dieu pour l'affermissement, pour l'enrichissement, pour le développement spirituel, en communiquant la pensée de Dieu. Le prophète, qui n'est plus à l'heure actuelle l'homme de Dieu qui communique les choses à venir, puisqu'elles nous sont totalement révélées, le prophète qui revêt, qui est un don d'une valeur particulière, puisque l'apôtre peut nous dire de désirer par-dessus tout, avec ardeur, des dons spirituels plus grands, et surtout de prophétiser. Qu'est-ce donc prophétiser de nos jours? C'est communiquer la pensée de Dieu en rapport avec les besoins du moment. Avoir ce discernement de la pensée de Dieu qui apporte, on peut dire, la communication de ce qui répond aux besoins d'un moment précis. Et le prophète, on peut dire, ou ce don-là, est sans doute celui qui requiert une dépendance particulière. C'est la raison pour laquelle nous avons à supplier le Seigneur, comme l'apôtre nous incite à le faire, et demander avec ardeur qu'il donne des dons de grâce plus grands, et surtout de prophétiser. Et remarquons que si le prophète a la parole de sagesse ou la parole de connaissance, c'est le premier des dons mentionnés en 1 Corinthiens 12, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse. Quelle valeur qu'une parole de sagesse. Remarquons également que le serviteur de Dieu qui a un don n'est jamais une source. Jamais. Il n'est qu'un canal. Et quel est son privilège et quel est son devoir? C'est de puiser constamment l'eau à la source et de la transmettre dans toute sa saveur, dans toute sa pureté, dans toute son intégralité. Ne retenant rien et n'ajoutant rien. Nous connaissons les paroles, les exhortations si solennelles, les mises en garde à la fin même de l'Apocalypse, quant à celui qui retranche ou celui qui ajoute. Le serviteur est un canal responsable de puiser l'eau à la source et de la transmettre pour désaltérer les âmes, pour leur profit spirituel, mais dans toute sa fraîcheur et dans toute sa pureté. Quel service précieux! Et l'Assemblée, donc, est appelée à reconnaître ses dons, à juger, à apprécier et à soutenir par ses prières et à manifester, Dieu veuille que ce soit le cas, sa main d'association, son identification avec l'exercice du ministère. Et un passage est bien particulier à ce propos, c'est en 1 Thessaloniciens 5, où nous sommes appelés à connaître de tels hommes, et il y en a qui sont mentionnés d'une manière particulière dans ce passage, ceux qui vous avertissent. Nous devons bien reconnaître que nous apprécions facilement ceux qui nous encouragent et nous consolent, nous apprécierons peut-être ceux qui nous enseignent, mais nous sommes peut-être exposés à moins apprécier ceux qui avertissent. Et l'apôtre est là pour nous rappeler. Reconnaître de tels hommes, les porter très haut en amour à cause de leur œuvre, mais très haut en amour, non pas à cause de leurs dons, mais ceux qui vous avertissent, ceux qui vous sont utiles pour l'édification, pour l'exhortation. On pourrait peut-être conclure que pour s'exprimer en assemblée, il faut avoir reçu un don remarquable quant à sa mesure. Tel n'est pas le cas. Nous avons vu que, dans les passages lus en Éphésiens 4, que chaque partie produit dans sa mesure ce qui contribue à l'édification du corps tout entier, et cela en amour. Les mesures varient. Un avait reçu 2 talents, l'autre avait reçu 5 talents, mais s'ils les ont fait valoir dans la fidélité et dans la dépendance, nous savons dans cette parabole qu'ils reçoivent les deux exactement la même appréciation du Seigneur, bien bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Je t'établirai sur beaucoup, car la récompense dépasse toujours la mesure du service. Fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie, non pas de ton service, la joie de ton maître. Ainsi donc, que le frère peut être plus jeune ou qui sent qu'il n'a pas une maturité particulière dans la compréhension des choses de Dieu, ne pense pas qu'il doit avoir la bouche fermée. Mais dans la mesure, nous soulignons cette expression si souvent répétée dans la parole, la mesure de chacun qui varie, mais quelle qu'en soit la mesure, elle peut contribuer à l'édification. Si elle est exprimée et réalisée dans la dépendance, dans l'humilité, dans la bienséance et dans la convenance, et qu'elle contribue à l'édification. Un seul encouragement, il y en a beaucoup d'autres, celui de la parabole de la multiplication des pains. Il y avait de grands besoins, une grande foule qu'on va renvoyer pour qu'ils puissent acheter des vivres. Le Seigneur ne répond pas sous cette forme. Qu'avez-vous ? 5 pains, 2 poissons, c'est peu de choses. Apportez-les-moi. Soulignons cette invitation d'amour. Apportez-les-moi. Ce qui pourrait sembler, a priori, insuffisant pour nourrir un peuple tout entier. Apportez, dans l'humilité, la confiance et la dépendance aux pieds du Seigneur. Il saura les multiplier pour la bénédiction et voire même pour la nourriture de toute cette foule, de telle manière qu'il en restera de reste. Apportez-les-moi ici, que ce soit un encouragement pour chacun des frères, pour contribuer, dans la mesure où le Seigneur le confie, à l'édification, à l'encouragement, à la bénédiction de l'Assemblée, chacun dans sa mesure. Le Seigneur a placé les membres dans le corps comme il l'a voulu, comme il lui plaît, en vue de l'utilité. La question à nous poser, suis-je à ma place ? Est-ce que je fais, dans la mesure où le Seigneur me le confie, le service que sa grâce place devant moi? Nous pourrions passer, car nous avons fort peu de temps, quelques instants en nous occupant de la réunion de culte, en lisant le passage bien connu de Jean 4. Jean 4. Nous connaissons bien cette scène de la femme samaritaine à laquelle le Seigneur peut dire au verset 23e, mais l'heure vient, elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 4, 1 Pierre 2, 4. Le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, et édifiée une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Épître aux Hébreux, chapitre 10. Verset 19. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Réunion de culte. Qu'est-ce que le culte? Dans le monde religieux, tout service religieux est qualifié de culte. Mais là, dans la pensée de Dieu, qu'est-ce que rendre culte? N'est-ce pas cette réunion d'assemblée où les rachetés réunis ensemble unissent leurs cœurs et leurs voix dans une collective louange à l'adresse de Dieu et du Seigneur en raison de ce qu'est la personne divine et de ce qu'il a fait? Différentes questions peuvent se poser. Qui rend culte? Qui peut rendre culte? Est-ce que tous les hommes peuvent rendre culte? Le passage de Jean 4 en fournit la réponse. Le Père cherche des adorateurs. Il faut donc être en relation filiale avec Dieu. Connaître le Dieu comme Père. Le Père exprime le désir de son cœur. Le Père cherche. C'est donc la famille du Père qui rend culte. Et pour rendre culte en esprit et en vérité, il faut donc avoir l'esprit.